Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce, bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à une question qui est traitée au lycée, le totalitarisme. Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur de la revue communiste, grand spécialiste du communisme, mais également des totalitarismes, puisque vous avez dirigé plusieurs colloques sur cette question, paru, si mes souvenirs sont bons, aux éditions du Rocher.
Oui, chez plusieurs éditeurs, aux éditions du Rocher, et un aux éditions de l'Âge d'Homme.
Stéphane Courtois, comment définir le totalitarisme ? Qu'est-ce que le totalitarisme ?
Le totalitarisme, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est un type de régime politique inédit, ça c'est très important de le souligner, qui apparaît au début du XXe siècle. Et je dirais que la meilleure preuve, c'est l'apparition du mot. Il faut toujours se souvenir que quand un mot nouveau apparaît, c'est tout simplement parce qu'il faut qualifier ou nommer un phénomène nouveau. Et on en a de nombreux exemples. Par exemple, le mot « communiste » est apparu en 1797 sous la plume de Restif de la Bretonne. Le mot « socialisme » apparaît en 1830-31 sous la plume, entre autres, de Pierre Leroux. Le mot « génocide », par exemple, que tout le monde utilise en oubliant qu'il n'a été créé qu'en 1944 par le grand juriste polonais Raphaël Lemkin qui l'a tout simplement inventé et qui en a conçu le concept. On pourrait même citer le mot bolchevisme qui est inventé par Lénine en 1903 et qui va faire florès jusqu'à aujourd'hui. Donc dès qu'il y a un mot nouveau qui apparaît, en particulier dans le domaine qui nous intéresse là, c'est-à-dire la politique, ça veut dire qu'il y a un phénomène nouveau qu'il a fallu nommer. Et c'est le cas, puisque pour le totalitarisme, le mot apparaît d'abord sous la forme de son adjectif, totalitaire, en 1923.
En Italie.
En Italie, voilà, sous la plume d'un journaliste et démocrate italien, Giovanni Amendola, qui se sert de ce mot nouveau pour désigner la manière dont Mussolini a réussi, à la suite de manœuvres savantes, à obtenir la majorité des voix au Parlement, alors qu'il est très minoritaire en voix. Et donc, Amendola dit, voilà, c'est une méthode totalitaire. Ce qui, pour lui, signifie qu'il veut s'emparer de tout le pouvoir à l'Assemblée. Et très rapidement, ce qui est étonnant, c'est que Mussolini va revendiquer le mot, en disant, oui, dès 1925, je veux un État totalitaire. Et ensuite, le mot totalitarisme va apparaître et va avoir déjà un très grand développement, au moins jusqu'en 1941, jusqu'à l'attaque allemande contre l'Union soviétique.
Alors, le mot apparaît en 1923, mais c'est la thèse de votre livre « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». Pour vous, il est contenu idéologiquement dans les écrits, dans la formation, et puis ensuite dans les écrits de Lénine.
Oui, ça c'est ce que je cherche à montrer dans mon livre, en particulier à travers les œuvres de Lénine, parce que Lénine a énormément écrit. Donc, Hitler n'a écrit à peu près qu'un livre, Mein Kampf, qui vaut pas grand-chose, mais Lénine, lui, était un intellectuel.
55 volumes en russe.
Voilà, c'est un intellectuel de haut niveau. Il y en a 45 volumes en français, près de 20 000 pages. Donc, il y a énormément d'informations. Et puis, il y a son action aussi. Il y a son action, et en particulier à partir du 7 novembre 1917, il s'empare du pouvoir. Et du 7 novembre 1917, au moins jusqu'à la fin 1922, quand il va être frappé par plusieurs attaques cérébrales et qu'il va être quasiment mis hors service, c'est lui qui est le patron. C'est-à-dire, il est le chef du parti bolchevique au pouvoir, il est le chef de ce qu'on appelle le Sovnarkom, le Conseil des commissaires du peuple, le gouvernement, et il est le chef de l'Internationale communiste. Donc, il a tout en main. Et c'est lui qui va façonner ce premier pouvoir, qui est d'un côté le premier régime communiste de l'histoire, et qui de l'autre côté est aussi le premier régime totalitaire.
Et comment définir ce totalitarisme ?
Alors justement, quels sont les éléments qu'on voit naître ?
Il y a beaucoup de définitions du totalitarisme.
Alors on peut prendre une définition très simple qu'on trouve chez Hannah Arendt, par exemple, qui est la grande, qui a remis ce mot à l'honneur à partir de 1951, dans son grand travail « Les origines du totalitarisme », on trouve chez Hannah Arendt cette définition très simple, une volonté de domination totale. Bon. Et quand elle dit totale, elle pense évidemment, elle le développe longuement, c'est pas seulement une volonté de domination politique, c'est aussi une volonté de domination de la société et finalement une volonté de domination de l'individu lui-même. Bon. On peut aussi en avoir une définition plus précise, je dirais, c'est celle que je donnerai, qui me paraît la plus pédagogique. Il y en a de plus sophistiquées, comme par exemple celle de mon collègue italien Giovanni Gentile, mais moi je la définirais en quatre caractères simples. D'une part, les trois monopoles, c'est-à-dire le monopole d'un parti politique qui s'est emparé de toutes les prérogatives de l'État, hein, le lieu de la décision politique, le bras administratif, l'administration, et le monopole de la violence. Hein, et ce parti État détient, s'arroge le monopole du pouvoir politique, avec à sa tête un chef charismatique, je venais de l'évoquer, Lénine en l'occurrence, Staline ensuite, puis Mao, Pol Pot et beaucoup d'autres, et Hitler, Mussolini, bon. Donc ça, c'est le premier monopole, le pouvoir. Le deuxième monopole, très important, le monopole de l'idéologie révolutionnaire. Parce qu'un régime totalitaire est par définition un régime révolutionnaire. Et là, je voudrais attirer l'attention en m'arrêtant une seconde sur la distinction fondamentale à faire entre régime autoritaire et régime totalitaire. Un régime autoritaire peut être criminel, voire plus criminel qu'un régime totalitaire. Mais c'est un régime conservateur. Ça n'est pas un régime révolutionnaire.
On pense au franquisme.
On pense par exemple au régime de Franco. Mmh. On sait très bien qu'une fois qu'il a gagné la guerre civile, Franco a quand même fusillé massivement pendant plusieurs années. Mais ça n'est pas un régime révolutionnaire. Hein, on a tort de le qualifier de fascisme. Le fascisme se voulait révolutionnaire. C'est un régime conservateur qui s'appuie sur l'Église, qui s'appuie sur l'armée, qui s'appuie sur les forces économiques. Et puis voilà. Et ça explique beaucoup de choses parce que quand Franco va mourir... Le passage à la démocratie va finalement se faire d'une manière assez fluide, y compris par la personne que Franco avait lui-même désignée, c'est-à-dire le roi Juan Carlos. Mmh. Donc là, il y a vraiment une distinction très importante à faire sur autoritaire et totalitaire. Donc, j'en étais au monopole de l'idéologie, très important. Une idéologie révolutionnaire qui va commander tous les secteurs de la création. Tout. La philosophie, l'art, les mathématiques, la physique, tout. Tout est sous cette idéologie. Chez les soviétiques, ça va être le marxisme, voire même le marxisme-léniniste, c'est-à-dire un marxisme matiné de léninisme. Chez Hitler, tout le monde le sait, c'est le racialisme. Chez Mussolini, c'est plutôt un nationalisme un petit peu délirant qui se revit en Empire romain. Mais c'est très important de prendre en compte cette domination idéologique et évidemment de tous les moyens de diffusion de cette idéologie. Hein, c'est-à-dire toute la presse, tout l'enseignement, tous les spectacles, tous les médias, tout ça est sous contrôle complet. Dès 1922, Lénine fait créer le Glavlit, hein, qui est un système de censure préalable de tout ce qui se publie. Mmh. Bon, et ça va durer jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, troisième monopole spécifique du communisme. Dans la mesure où le communisme de Lénine, dès les premiers jours, décide de liquider la propriété privée, c'est le parti-État qui s'empare de toutes les richesses du pays et qui s'empare de tous les moyens de production et de distribution des biens matériels. Bon. Ce qui veut dire que ce parti-État a un pouvoir phénoménal sur toute la société. Le logement, le salaire, le chauffage, le ravitaillement, tout ça est sous le monopole du parti-État. Et dans le cadre du communisme, c'est vraiment incontournable, puisqu'il supprime la propriété privée. C'est-à-dire qu'il pourchasse les propriétaires privés, il s'empare de toutes les richesses. Il faut rappeler que, dès les premiers mois, Lénine fait saisir les 35 000 coffres-forts des particuliers dans les banques russes. Bon, il faut quand même le faire. Hein. Bon, donc voilà, il ruine, par ces moyens-là, il ruine littéralement les classes possédantes. Exactement, il faut bien le dire, comme Hitler ensuite ruinera les Juifs, par des mesures législatives, leur interdisant ceci, ceci, cela, jusqu'au moment où ils seront ruinés. Hein. Donc voilà, ça c'est le troisième monopole. Et puis il y a quand même un quatrième élément fondamental, sans lequel rien de tout ça n'aurait tenu quelques mois, c'est la terreur, Mais pas n'importe quelle terreur. C'est pas une terreur, je dirais, spontanée de foule qui vont écharper quelques policiers ou quelques cosaques, etc. Non, c'est une terreur
systématique.
Systématique, mise en œuvre par le gouvernement. C'est une terreur de masse comme moyen de gouvernement.
Alors justement, vous évoquez la terreur. Est-ce qu'on peut parler, peut-on faire la Révolution française et la période de la terreur à un moment totalitaire?
Alors là, je serai beaucoup plus prudent. Je sais bien qu'il y a un certain nombre d'analystes qui considèrent que la période Comité de salut public de la Révolution française, 1792-1794, jusqu'à la chute de Robespierre, c'est un moment totalitaire. Moi, je ne suis pas d'accord pour deux raisons. D'abord pour la question de l'idéologie. L'idéologie de Robespierre et du Comité de salut public est une idéologie très sommaire, hein, qui se résume à la vertu et la terreur. La vertu, c'est nous les révolutionnaires. La terreur, c'est pour combattre les méchants qui n'appliquent pas la vertu. Bon, c'est quand même très, très sommaire et ça ne va pas très loin. La théorie marxiste la doctrine marxiste telle qu'elle est appliquée par Lénine, par exemple, ou la doctrine racialiste telle qu'elle est appliquée par Hitler, surtout à partir de 1939-40, vont beaucoup plus loin à cause de leurs prétentions scientifiques. Chez Robespierre, la vertu et la terreur, on est encore dans la vieille morale chrétienne, le bien et le mal, pour une raison très simple, c'est que la société française de 1789 est totalement catholique. Bon, donc Robespierre ou pas Robespierre, on ne sort pas de cet horizon-là. Tandis qu'avec la théorie marxiste ou la théorie pseudo-scientifique des racistes, on est justement dans cette prétention scientifique. Et là, c'est tout à fait radical. Il n'y a plus question de bien et de mal. C'est la connaissance ou l'ignorance. Donc, si vous êtes ignorant, tant pis pour vous. Hein, mais nous, nous avons la connaissance et nous l'appliquons. Bon. Donc là, il y a vraiment une première différence fondamentale. La deuxième différence fondamentale, c'est le parti de révolutionnaires professionnels. Le comité de salut public n'est pas du tout un parti de... D'abord, ce n'est même pas un parti. C'est un réseau assez flou, qui d'ailleurs va s'écrouler très... très facilement quand Robespierre va tomber. Hein. Donc ça, c'est une chose. Le parti de révolutionnaires professionnels créé par Lénine, c'est tout autre chose. C'est véritablement un parti constitué d'affidés totalement fidèles, comme leur nom l'indique, à un leader charismatique qui a tout pouvoir. Bon, et c'est ce qui se passe avec Lénine. Et qui a d'autant plus tout pouvoir qu'il a réussi son coup. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir contre toute vraisemblance. Parce qu'il faut quand même bien rappeler que le 1er janvier 1917, qui pouvait imaginer une seconde que ce monsieur Lénine, inconnu de tout le monde, serait au pouvoir 8 mois plus tard? Qui pouvait imaginer le 1er janvier 1919 qu'en 1933, un certain Adolf Hitler, SDF, à Vienne en 1914, serait le chancelier du Reich? Ce sont des choses... Et on peut dire la même chose pour Mussolini. Mussolini, en 1914, avant la guerre, est en fuite, il est en exil, en Suisse, c'est un traîne-patin qui est protégé par 2 ou 3 personnes, etc. Il n'a aucun avenir. Bon. Donc là, si vous voulez, le modèle de prise de pouvoir par Lénine a été un choc, c'est un électrochoc pour tous les aventuriers politiques de se dire, bah, c'est possible, il l'a fait, pourquoi pas nous? Mais pour les affidés de ce chef, hein, ce sera la même chose pour Hitler, ce sera la même chose pour Mussolini, c'est une fascination alors totalement accrue, pour le personnage qui, depuis des années, disait « je prendrai le pouvoir, je ferai la révolution, etc. », tout le monde rigole. Quand Lénine arrive à Saint-Pétersbourg le 16 avril 1917, hein, on a de nombreux témoignages, y compris de socialistes, par exemple du français Marcel Cachin, qui était à Pétrograd à ce moment-là, et tout le monde dit « mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène ?» Et les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là échangent des informations sur ce Lénine qui tient des discours incendiaires et disent « Ah non, mais ça y est, il s'est complètement grillé. Dans 8 jours, on n'en parlera plus. » Bon, l'ennui, c'est qu'un siècle plus tard, on en parle toujours.
Alors, vous avez utilisé le terme d'affidé, ça vient de fidé, la foi. Oui. On connaît la définition aronienne, hein, des religions séculaires. C'est une crise de la modernité, le totalitarisme?
Oui, incontestablement, c'est une crise de la modernité.
D'un monde sans Dieu, d'un monde qui refuse Dieu.
Non mais ça c'est quand même très clair. Alors chez les bolcheviks c'est très clair, et chez Marx. C'est une idéologie totalement, pas seulement athée, on peut dire c'est une idéologie anti-Dieu. Hein, d'ailleurs, en Union soviétique dès 1922-23, se crée un mouvement, hein, des anti-dieux, hein, qui vont combattre, qui vont ensuite aller détruire toutes les églises, etc. Mais pas que les églises, les synagogues, les mosquées, etc. Or ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que même si on n'est pas croyant, l'idée de Dieu est indispensable quelque part au fonctionnement de la société.
Durkheim, il pose une éthique, une limite.
Mais il pose surtout une limite. Mmh. Il pose des limites. Ces limites sont très simples, tout le monde les connaît. Enfin, tout le monde les connaît.
Tu ne tueras pas.
Voilà, ce sont les 10 commandements. Simplement, je constate que plein de gens aujourd'hui ne sont incapables de vous les donner. Bon, mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans l'Europe du 19e siècle, tout le monde vit dans cette psychologie des limites. Hein. Là où ça devient terrible, c'est que justement... dans les démocrates, par exemple dans la République française, on sait très bien qu'il y a eu un courant très anticlérical, violent, etc. Mais bon, qui n'est pas allé jusqu'à nier ses limites. La meilleure preuve, c'est que les instituteurs, les fameux hussards noirs de la Troisième République, tous les matins, qu'est-ce qu'ils faisaient au tableau ? Ils mettaient au tableau la leçon de morale. Hein ? Et cette leçon de morale, bon, ils peuvent tourner autour du pot tant qu'ils veulent. Elle venait évidemment de la morale chrétienne, bon, de cette limite, du respect de la personne humaine, de la dignité humaine, etc., etc. Donc là, il y a ce tabou, cette limite fondamentale qui fonde la société. Il faut quand même rappeler que c'est le respect de ces limites qui fait que la société existe, fonctionne. Bon, vous faites sauter ça, alors on tombe...
Tout est possible.
Tout est possible, et on tombe dans la fameuse phrase « l'homme est un loup pour l'homme », et là, il faut bien dire que dans les régimes totalitaires, là, les loups vont être particulièrement féroces.
En 2 minutes, Stéphane Courtois, est-ce qu'il existe aujourd'hui des régimes totalitaires ? Est-ce qu'on peut considérer la Chine telle qu'elle est aujourd'hui, ouverte en partie au capitalisme, comme un régime totalitaire. La Corée du Nord, il n'y a pas de débat, je crois, sur cette question. Mais est-ce le régime chinois peut être toujours considéré comme un régime totalitaire, comme il l'a été sous Mao ?
Alors là, c'est des questions qui sont encore en grande discussion entre spécialistes. Moi, j'ai de grandes discussions là-dessus, par exemple avec mon collègue Christophe Pomian de la revue Le Débat. Moi, je considère que d'abord, il faut bien voir que dans un régime totalitaire, il peut y avoir des moments de plus ou moins haute intensité. Bon, la guerre civile et le communisme de guerre sous Lénine, c'est un moment de très haute intensité totalitaire. Staline, entre 1929 et 1953, ce sont des moments de très haute intensité totalitaire. Bon, Khrouchtchev, après 1956, on est dans un totalitarisme de plus basse intensité. Dans la Chine d'aujourd'hui, on a toujours un petit parti communiste de 89 millions de membres au pouvoir, hein, il faudrait le rappeler. Et lors du dernier congrès, M. Xi Jinping, son secrétaire général, s'est attribué des pouvoirs gigantesques. Il s'est même assimilé à Mao Tse-tung, qui était un grand leader totalitaire. Donc, pour moi, il est incontestable qu'il y a des éléments, il persiste en Chine, des éléments de totalitarisme, c'est évident, mais d'un totalitarisme pour l'instant de basse intensité. Je dis pour l'instant de basse intensité. Il ne faudrait pas que, d'un seul coup, ce totalitarisme communiste bascule dans un totalitarisme nationaliste, ultranationaliste. Or, nous savons qu'aujourd'hui, en Chine, il y a des pensées ultranationalistes. Hein. Or, là, évidemment, on pourrait très bien retomber dans un totalitarisme qu'on a connu au XIXe siècle, un Mussolini extrémiste ou un Adolf Hitler 1941. Donc voilà, pour ce qui est de la Corée du Nord, c'est clair. Il y a... Enfin, un dernier point qui, pour moi, est très important, c'est qu'à mon avis, disons depuis 1979 et la révolution de l'imam Khomeini, il y a un mouvement, un nouveau mouvement totalitaire qui est apparu, qui, sous prétexte de religion, est en fait un mouvement qui vise à la prise du pouvoir, au contrôle total du pouvoir, au contrôle total de la société, au contrôle total de l'individu. C'est l'islamisme radical, avec la violence et la terreur qui vont à la clé. Je crois qu'on l'a bien vu dans une espèce de petite expérience qui a été l'expérience de Daesh, qui d'une certaine manière ressemble beaucoup à l'expérience des Khmers rouges de Pol Pot, hein, dans la radicalité totale et totalitaire.
Merci beaucoup Stéphane Courtois. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Lénine, l'inventeur du totalitarisme, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Je donne rendez-vous aux auditeurs pour un prochain cours d'histoire très prochainement. Merci et à très bientôt.